Dans la saison 9 de l'émission quotidienne du 100.4 FM, le magazine de Transistor, c'est l'EM. Le jeudi, c'est écologie. Et parfois, en deuxième partie aussi, il y a des invités. C'est le cas aujourd'hui pour découvrir de nouvelles formes de mobilité. On va se déplacer, oui, mais on va chercher à le faire plus sobrement. Et pour ça, vous savez qu'il y a la marche à pied, le vélo, la voiture, mais à plusieurs, comme le covoiturage, ou alors l'autopartage, une seule voiture partagée entre plusieurs personnes. Depuis peu, on entend parler des véhicules intermédiaires. À Brest, on en teste même un, en particulier le Vélio avec un H après le V. C'est un objet de recherche partagé entre l'association de développement des mobilités alternatives T-Mobs, qu'on a déjà reçu, et l'Université de Bretagne occidentale. La coordinatrice de T-Mobs, Kali Abraham, et Alice Grasset, qui est ingénieure de recherche solutions et mobilité alternative à la voiture, au laboratoire d'études de recherche en sociologie, le Labers à l'UBO. Elle aussi est membre du conseil d'administration et référente du projet sur les Vélios. Elles sont en plateau toutes les deux. Bonjour.
Bonjour.
Ça va, j'ai tout dit ce qu'il fallait dire ?
C'est parfait, bonjour, oui. C'est très bien.
Merci. Alors, un véhicule intermédiaire, déjà, qu'est-ce que c'est, tout simplement ?
Un véhicule intermédiaire, c'est entre un vélo classique et une voiture de moins de 600 kilos. Donc ça va en gros du vélo assistance électrique au mini-voiture, donc c'est la catégorie L7, c'est plus petit, c'est un peu comme les Citroën Ami, on va dire.
Ah oui.
C'est ce gabarit-là.
Est-ce que les voitures sans permis en font partie ?
Les voitures sans permis en font partie, effectivement. Et elles sont inférieures à 600 kilos.
Donc c'est le poids qui détermine.
Voilà, ouais, alors donc là on a dit véhicule intermédiaire, mais à vrai dire depuis quelques années on dit plutôt véli pour véhicule léger et intermédiaire. C'est aussi une dénomination qui est plus courante au niveau international. Correspond en France à l'association Aveli, et aveli.org si vous voulez aller voir le site de cette association. Et donc cette association-là, elle s'occupe de promouvoir ce type de mobilité au niveau.
Et en tant que concept, ça a été lancé il y a longtemps
En tant que concept, alors si on regarde
officiel,
l'histoire des... Voilà, en tant que concept officiel, on pourrait attribuer ça au mouvement de l'extrême défi de l'ADEME. Hein, donc l'ADEME qui est notre très chère agence de développement sur tout ce qui est écologique.
Hein,
qui
finance, les transitions, on va dire, l'agence des transitions maintenant, exactement, en fait. Ouais, avant, c'était la maîtrise de l'énergie, mais bon.
Mais sinon, au niveau de l'histoire de la mobilité, en fait, des véhicules un peu bizarroïdes, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des inventeurs pour proposer des solutions alternatives. Maintenant, la volonté de l'extrême, de l'ADEME à travers l'extrême défi, c'est quand même de promouvoir une filière de solutions alternatives.
Ouais, c'est ça, de les construire à une échelle un peu industrielle, en fait.
Exactement,
c'est ça,
hein,
pour que ça soit abordable, tout simplement. Que ça soit pas que des prototypes.
Exactement. Leur programme, il a été découpé en phases. Effectivement, il y avait une première phase d'idéation où on demandait aux équipes de proposer des modèles, de proposer des prototypes. Et là, maintenant, ce programme-là est à l'étape de l'industrialisation. Donc, les conditions d'industrialisation posent plein d'évolutions au niveau législatif.
Mais c'est ça, il faut que ça soit légalement accepté déjà, et puis, enfin, en termes de sécurité, parce que ce qui caractérise aussi... Est-ce qu'il y a forcément un moteur aussi dans le véhicule, le Véli ?
Oui. Il y a presque toujours un moteur. Donc, il y a deux types, en fait, de Véli. Il y a les modes actifs. Donc là, on va avoir, par exemple, un pédalage assisté avec un moteur électrique. Donc, c'est le même principe que les vélos assistance électrique, avec des puissances plus ou moins importantes, hein, pour se déplacer plus ou moins vite. Et puis, il y a des modes passifs, comme les micro-voitures électriques, où là, on a un moteur 100% électrique. Et effectivement, selon la puissance du moteur, eh bien, c'est des 45, 60, 80 km/h.
Mais c'est plus léger. Enfin, l'intérêt de ces véhicules, c'est leur légèreté, puis leur sobriété, j'imagine, en ressources. Enfin, c'est ça, en fait.
Ouais, effectivement, ça faisait partie, en fait, des critères pour répondre à l'extrême défi là, de l'ADEME. Eux ont demandé à ce que les véhicules soient 10 fois moins coûteux à construire, 10 fois plus durables, c'est-à-dire qu'il y ait un aspect où c'est facile de déconstruire pour pouvoir les recycler.
Ah oui.
Plus Import. Léger parce que ce qui coûte cher en énergie quand on déplace une voiture, c'est qu'elle fait une tonne pour déplacer un corps de 60 à 80 kilos. Donc le rapport poids-puissance qu'il soit davantage optimisé.
Donc 10 fois plus léger, c'était toujours 10 fois
ouais,
plus, 10 fois moins.
Exactement, ouais. Dans les critères au début de l'appel à projet, il y avait ce 10 fois qui revenait.
Effectivement, il faut que ce soit plus léger, plus compact aussi qu'une voiture, ce qui a aussi des avantages.
Ça prend moins de place.
Ça prend moins de place. Ouais. Donc, en imaginant que les villes vont être de plus en plus peuplées, on imagine que pour les déplacements, ça permet aussi tout simplement de trouver des places de parking, de pouvoir se déplacer sans forcément avoir des bouchons de kilomètres avec qu'une seule personne à l'intérieur. Donc, c'est toute une restructuration de notre ville et de nos déplacements que s'opère et que proposent ces types de véhicules.
Alors, on est d'accord que c'est un véhicule qui est destiné à la ville, avant tout, hein ?
Ben, ouais. Pas forcément, et c'est un petit peu c'est un peu l'une des raisons de cette expérimentation avec le Vélio. C'était de réussir à comprendre un petit peu qu'est-ce que ça donnerait dans des déplacements périurbains, voire ruraux pour certains. Et c'est pour ça qu'on a que l'UBO en tout cas accompagne des expérimentateurs et expérimentatrices qui n'habitent pas à Brest et qui habitent dans des communes plus petites, et pour voir dans leurs déplacements comment ça fonctionne, est-ce que ça répond à leurs besoin. Donc, je pense que Alice, tu peux compléter.
Alors, le Vélio, il faut nous dire ce que c'est, à quoi ça ressemble.
Déjà, pour resituer juste sur cet aspect urbain, ruraux, on a ce qui compte, je pense, c'est pas tant les caractéristiques propres du territoire, est-ce qu'on a beaucoup d'arbres ou pas, etc. Mmh. C'est plus l'idée que on a plus de la moitié de la population en France, et à travers le monde, ça s'accroît aussi, qui habite dans des métropoles. Et en fait, dans les métropoles, on a des solutions pour se déplacer. On a des tramways, des bus, etc. Il y a un plan...
Les transports en commun, normalement.
Voilà, c'est ça. Normalement, on a des transports partagés, des transports en commun. Et pour les 45% de la population qui habite en dehors de ces métropoles, eh bien, que se passe-t-il ? Donc, la volonté, là, dans ce projet, c'était effectivement de tester si ces véhicules intermédiaires étaient des solutions plausibles pour les personnes habitant en espace périurbain, donc moins desservies par les transports en commun ou pas du tout desservies. Même chose pour les personnes habitant dans des petits bassins de vie autour des métropoles. Est-ce que ça répond à un besoin de mobilité ?
Et quels sont les territoires concernés, alors, ce qui nous concerne le pays de Brest ?
Eh ben, on est sur le pays de Brest. Donc, pour le moment, et j'ai plus en tête les lieux où sont les expérimentateurs et expérimentatrices, je crois que c'est principalement à Brest, mais qu'on a une moitié sur les agglomérations aux alentours.
C'est Brest métropole et les communes avoisinantes. Donc, on a des expérimentateurs un peu... je pense que la personne peut-être la plus excentrée, ça doit être du côté de Ploarzel. On avait aussi des expérimentateurs du côté de Plougastel.
Plus vers chez nous, parce que après tout, on est dans le pays de Brest. Il n'y a pas des faouistes, non ?
Exactement. Ça a un petit peu posé problème au moment où le pont a été fermé. On a clairement besoin d'expérimentateurs qui peuvent traverser ce genre d'infrastructure.
Le vieux pont, le pont Albert-Loup.
Ouais,
et les véhicules intermédiaires n'ont plus le droit d'y aller.
Ouais. Non, c'est ça. En fait, pendant un moment, il y avait un petit peu un vide qui, ou en tout cas, il n'était pas stipulé que les véhicules intermédiaires étaient interdits. Et effectivement, il y a beaucoup, notamment d'amis, qui passent par ce pont. Et pour plusieurs raisons, il a été interdit. Mais c'est très récemment, hein. Je crois que c'est fin 2024.
Ouais.
Mais ça pose quand même souci parce que, en dehors de ce pont, il n'y a pas vraiment d'endroit pour arriver à Plougastel ou à Brest, quoi. Et
c'est
beaucoup
ça.
De personnes font le trajet Plougastel-Brest ou autre pour le travail, par exemple, donc à tous les jours.
Alors, ce qu'il faudrait, c'est le tester, par exemple, à l'intérieur de la presqu'île de Crozon, juste pour des gens qui travaillent et vivent en presqu'île. Ça, vous n'avez pas ça pour l'instant.
En fait, on a une personne qui travaille assez occasionnellement sur Brest et qui va plutôt l'utiliser sur, on va dire, de l'interbourg.
Oui, c'est ça.
Ouais. Vous m'avez posé la question.
Oui, du Vélio.
Le Vélio.
Ouais, c'est ça. Parce que c'est toujours avec le Vélio ou votre expérimentation, elle concerne éventuellement d'autres véhicules intermédiaires ?
Notre expérimentation, elle concerne deux véhicules. Donc, on a le Vélio sur Brest Métropole et les communes avoisinantes. Et on a le Biro, qui est un équivalent de la Citroën Ami, sur la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, qui est un territoire de 33 communes au nord de Montpellier.
Ah oui, d'accord.
Donc, l'idée, c'était un peu d'avoir deux cohortes avec deux territoires et voir la différence entre ce qui se passe avec un mode actif et un mode passif. Et surtout l'intérêt d'avoir d'un côté le Vélio qui est une sorte de VAE, un peu plus gros. On pourrait presque dire le SUV du VAE. Voilà.
Donc c'est un vélo avec plusieurs places, c'est ça ? Enfin, y a une seule personne qui pédale ? Comment ça se
donc
présente ?
Déjà, c'est un engin qui a été inventé par Grégory Barrier. Donc il était à l'initiative d'un projet. Il s'est dit, bon, voilà, moi, je n'ai pas envie d'acheter une deuxième voiture. J'aimerais avoir un véhicule qui fasse ci, qui déplace des enfants, qui déplace des charges. Je n'ai pas besoin... Juste avec le vélo, c'est compliqué de charger les courses et les enfants, etc. Donc, il a fait une sorte de prototype. Et puis, s'est greffé petit à petit un collectif autour de lui. Et ils ont créé l'association Vélo Solaire pour tous. Donc vous pouvez aller voir sur leur site velio.org, donc V-H-E-L-I-O.
Ah oui, c'est pour ça le H, d'accord.
Exactement. Et donc eux, à partir de ce constat qu'il n'existait pas de véhicule qui leur convenait et qui permettent de se passer d'une voiture, ils ont construit ce Velio.
Donc il est solaire, pourquoi ? Parce que la batterie se recharge.
Il est solaire pour augmenter l'autonomie de la batterie.
Et donc, ça veut dire que le panneau solaire est tout le temps en fonctionnement, en fait, sur le vélo, c'est ça ?
Ça dépend de la configuration qu'on monte. Donc, il faut savoir que c'est un vélo à auto-construire. Donc, la conception, elle est low-tech. On va sur le site de velio.org, on prend l'onglet Vélotech, et là, on ouvre un fichier Excel sur lequel sont référenciées les différentes pièces à commander pour se faire livrer ces pièces et les monter soi-même. Donc une fois monté ce véhicule, il va à 25 km/h.
Avec une seule personne qui pédale ou deux ?
Il y a une seule personne qui pédale et derrière on peut installer deux sièges.
En plus du cycliste.
En fait on peut aller jusqu'à 200 kg de charge utile.
Ah oui. C'est ça. Ça peut être une remorque.
Oui, et effectivement, et l'avantage que ce soit autoconstruit, c'est qu'on peut l'adapter aussi à ses besoins. Il y a par exemple des personnes qui vont se dire, moi ce serait plus pour mon usage personnel, mais en allant prendre mes courses, il me faudrait peut-être une petite cagette pour pouvoir y placer mes courses en arrière, ou d'autres qui pourraient l'utiliser pour amener ou ramener leurs enfants à l'école et qui du coup auraient besoin d'effectivement des deux sièges en arrière. Et c'est ce qui vraiment...
On peut faire les deux peut-être, non ?
Oui, on peut faire les deux, on peut interchanger aussi, vu que justement c'est de l'autoconstruction et de l'autoréparation. Donc c'est vraiment un avantage de pouvoir s'approprier son propre véhicule, ce qui n'est pas le cas en général avec une voiture où à la limite on peut choisir d'avoir des petits détails, des petits accessoires, quoi. Mais ça reste limité.
C'est vrai que comme c'est un véhicule à autoconstruire, il est aussi à autoréparer. Donc fini les notes de garagiste, on sait faire soi-même.
C'est ça.
Et l'autre avantage qu'y voient aussi les personnes à l'usage, c'est qu'on peut l'adapter en fonction des changements dans sa vie. La voiture, vous êtes obligé de la revendre pour en racheter une autre.
Ouais. C'est ça. On peut le faire évoluer.
Exactement, ça fait partie des avantages. Maintenant, effectivement, on voit qu'il y a certains
Ça fait combien de temps là que vous avez commencé depuis quand l'expérimentation là ?
Le projet Vimob, l'expérimentation en elle-même, elle a commencé fin avril 2024. Une semaine de montage. Toutes les personnes qui étaient volontaires à l'expérimentation sont venues dans les locaux de l'université, dans un gymnase. Et pendant une semaine, tous ensemble, on a monté ces 10 vélios.
10 vélios, ouais. D'accord. Donc peut-être plus que 10 personnes, par contre.
Personnes. Effectivement, chaque volontaire est venu avec des amis, de la famille, pour aider à construire son véhicule.
Et en matière d'usage, il y a plusieurs personnes, c'est pareil, j'imagine, il n'y a pas une seule cycliste par vélio, j'imagine, non ? Est-ce qu'il y a du vélio partage ?
Alors, on a effectivement, on est parti pour des questions assurantielles sur un vélio par foyer et puis déclarer dans le foyer en fait qui allait conduire ce vélio, sachant que comme c'est un VAE, avec un moteur assisté, les ados en fait n'y ont pas accès, ados n'y ont pas accès.
Il faut avoir un brevet, c'est ça ?
Et donc voilà, pour des questions assurantielles, on a plutôt visé les adultes et les adolescents dans un second temps seulement.
Donc c'est assurable, bien que ça soit low-tech, on peut l'assurer.
Oui, on peut l'assurer si on veut, mais on n'a pas vraiment intérêt à l'assurer. Déjà, on va dire l'assurer contre le vol, il faudrait que ce soit vendable sur le marché.
Oui, c'est vrai.
coupable. Ouais. Et après, s'assurer, bon, bah, là, c'est la responsabilité civile, exactement comme quand vous faites du vélo. C'est ça aussi, d'accord, un des avantages du vélo, c'est que comme il est dans la catégorie VAE, vous pouvez avoir accès à exactement la même réglementation qu'à vélo, accès aux pistes cyclables, donc, puisque vous restez en dessous des 25 km/h, voilà, ça fait aussi
partie. Oui, c'était ma question, en fait. C'était ça. Quand je disais assurable, c'est pas le vélo lui-même, mais les personnes, enfin, le risque qu'elles peuvent éventuellement faire courir à d'autres en conduisant un vélo.
C'était pris en compte dans nos critères d'expérimentation, dans le montage du projet.
Donc c'est
recherche.
Homologué, en fait, c'est ça. Ça veut dire que c'est un véhicule qui est accepté, qui est légalement accepté. Enfin, on ne va pas se faire arrêter par les gendarmes, ouais, qu'est-ce que c'est votre truc
On peut se faire arrêter par les gendarmes, ce n'est pas un problème, parce qu'on a le droit d'autoconstruire, en fait, et de circuler avec des choses qu'on aurait construites.
Ah oui.
Même quand en fait, ça dépend de la taille. Si vous construisez une moto vous-même, je pense que là, vous avez un problème. Voilà. Mais pour ce prototype-là, vous pouvez circuler avec, il n'y a aucun souci.
C'est la limite de la vitesse qui fait les 25 km/h.
La commercialisation. En fait, l'homologation, c'est en lien avec l'économie de marché. Si vous construisez quelque chose pour vous-même, que vous ne le vendez pas, vous n'êtes pas obligé de faire homologuer.
Ouais. Je comprends. Mais on a quand même le droit de circuler parce que c'est la voie publique, c'est ça en fait la question. Donc c'était...
Effectivement, c'est la voie publique. Nous, ce qui nous intéresse dans le projet de recherche, c'est moins les aspects, légaux. Parce qu'après tout, souvent, les adaptations juridiques, elles arrivent après les usages. Notre objectif, c'était plutôt d'observer les transitions, c'est-à-dire de comprendre en fait les changements d'habitude nécessaires dans nos vies pour adopter ce type de véhicule.
Est-ce que vous êtes plutôt sociologue, c'est ça, Alice Grasset ?
Exactement. Ouais. Ouais. Donc, ce qui nous intéressait, c'était d'identifier ce qui était possible ou impossible quand on confiait des véhicules différents d'une voiture et plus gros qu'un vélo.
Et alors, que voyez-vous pour
Alors,
l'instant
on voit quelques petites choses, effectivement. On voit déjà que dans ce milieu-là, on continue à baigner dans une croyance très forte qui est celle du technosolutionnisme.
Ah oui.
Ouais. Donc ça veut dire que la majorité des acteurs ou des personnes que vous allez rencontrer vont discuter sur ce sujet en pensant que la solution contre les problèmes, pour les problèmes environnementaux, en fait, pour améliorer notre climat, pour améliorer, l'extinction des espèces, etc. En fait, tous les problèmes liés à l'environnement, ils auraient une solution technique. Mm-hmm. Donc là, on va proposer des nouvelles solutions techniques. Et puis, il va y avoir tout un panel entre le vélo assistance électrique et la voiture.
Ouais. Sauf que c'est pas vraiment l'esprit, en fait.
Sauf qu'on n'est pas, sûr que ce soit ce qu'il nous faut.
Ouais. C'est peut-être juste moins se déplacer.
Effectivement, le meilleur déplacement, est-ce que c'est pas celui qu'on ne fait pas ?
Voilà, ouais. Question, en effet.
C'est une question. En tout cas, en développant plein de solutions techniques pour remplacer les moteurs thermiques par des moteurs électriques, en fait, on sait déjà qu'on fonce tout droit dans une impasse. Voilà, on sait déjà qu'on n'aura pas la quantité de matériaux nécessaires pour ce faire.
Même si tout le monde passe aux véhicules légers, on n'aura pas assez, c'est ça ?
Il y aura
d'accord.
pas assez. Donc, ouais. Donc tout à l'heure on parlait de partage, typiquement si les vélis viennent en plus s'installer dans nos garages, en plus des vélos et des voitures, ouais. Là, on est sûr, en fait, qu'on n'aura pas le nécessaire.
Si on n'aura pas des garages assez grands, déjà, pour commencer.
C'est aussi un souci, voilà. Ouais. Quand on parle de non-étalement urbain et qu'on met en place des lois pour condenser l'habitat et éviter d'aller construire partout, d'aller artificialiser partout, effectivement, si on continue à accumuler du matériel sans le partager, ça...
Donc les vélos, l'idée, ce serait plutôt des vélos partageables, quoi.
Eh bien, pourquoi pas, effectivement. Là, dans l'expérimentation, on en a un qui est en partage. Donc, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines, en fait, les prochains mois, quand on discutera avec ces personnes-là. Et puis, la deuxième chose que nous, on observe dans les entretiens avec nos volontaires, c'est que... tous justifient leur comportement. On a tous des comportements vertueux vis-à-vis de l'environnement, et puis tout un discours avec. Tout un discours qu'on s'est approprié. Et puis, bah, on peut regarder dans ces discours comment les personnes se sont appropriées finalement les discours dominants, ce qui vient de la radio, ce qui vient de la télé, ce qui vient des lectures. On observe aussi finalement...
Ça veut dire que parce qu'ils utilisent le Vélio, finalement, ils pensent qu'ils sont... Ça les dédouane, c'est ça, en quelque sorte? C'est un peu l'alibi ou...
C'est peut-être la peur de l'effet rebond quand on parle d'environnement ou en utilisant un moyen plus écologique, peut-être on le surutilise ou du coup on compense avec une autre utilisation qui est elle moins écologique et du coup bah en fait en pensant bien faire on a un effet le mot rebond est bien dit pour pouvoir démontrer ça quoi.
Ouais.
L'idée qui revient souvent, il y a l'idée d'exemplarité. Dans nos volontaires, on retrouve pas mal de foyers qui vont aussi pratiquer le recyclage, qui vont aussi faire attention où ils consomment, où ils achètent leurs aliments, qui vont pratiquer le compostage ou avoir un petit poulailler. En fait, ça vient en complément de d'autres démarches. Mmh. Le critère d'exemplarité revient souvent. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces discussions, il y a une sorte de... il y a des valeurs, en fait, il y a des valeurs de classe qui reviennent, des sortes d'évidences. Et quand on les questionne, on se rend compte que ces évidences-là, elles ne sont pas présentes dans tous les groupes sociaux. Donc nous, ce qui nous intéresse aussi, plus particulièrement, je pense, en tant que c'est de voir où sont les inégalités sociales. C'est-à-dire que là, on prête des véhicules. Mmh. Mais l'idée d'après, c'est que ces véhicules, à un moment, seront sur le marché. Donc, à qui ils s'adresseront?
Ça sera que pour les bobos ou pas, quoi?
Voilà, c'est ça. Exactement. La question, c'est qui s'y appropriera réellement derrière. Si on industrialise, qui va les utiliser et comment? Oui. Voilà, l'AMI a été mis sur le marché, par exemple, l'AMI de Citroën a été mis sur le marché en visant un segment de la population. Et finalement, c'est beaucoup les adolescents qui se sont emparés de ce véhicule. Donc ça, c'est lié aussi à l'effet rebond. On ne sait pas ce qui va devenir, advenir ensuite.
Bon, bah, vous reviendrez quand le projet FIMOBS arrivera à son terme. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci beaucoup.
C'est la fin de l'émission. Vendredi, rappelez-vous, c'est à Plébin. C'est un plateau des communes, comme on le fait une fois par mois. Et c'est Davy Andrasi qui sera aux commandes.